Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Renault choisit ce jeudi le successeur de Carlos Ghosn. A priori, Jean-Dominique Senard, actuel patron de Michelin, prendra les rênes du premier groupe automobile français. Son portrait à suivre. La confiance des Français dans les médias a atteint son plus bas niveau depuis le lancement du baromètre annuel de La Croix en 87. Les images montées, expliquées, notamment ne captivent plus, vous l'entendrez. Et puis au Venezuela, le chef de l'opposition s'est proclamé président par intérim face à Nicolas Maduro. Il est soutenu par les États-Unis notamment, tension au plus haut dans le pays et chez ses voisins. Le pape François est justement au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Reportage dans ce journal. Une page se tourne donc chez Renault. C'est ce matin que le constructeur devrait acter le départ de Carlos Ghosn en conseil d'administration. Un conseil qui doit se tenir à 10h au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris. Un tandem devrait remplacer l'indéboulonnable patron, aujourd'hui pris dans une affaire judiciaire au Japon pour des soupçons de fraude financière. Thierry Bolloré devrait donc devenir directeur général chez Renault. Et Dominique Senard, actuel patron de Michelin, bien connu dans l'industrie automobile. Dominique Senard devrait lui prendre la place laissée vacante au conseil d'administration. Son portrait est signé ce matin Maxime Deps.
C'était il y a un an et demi et le discours est quasi prémonitoire.
Nous entrons dans une période d'une forme de contestation, d'une forme de capitalisme débridé. Le monde entier nous regarde. Merci beaucoup pour votre attention.
En 2017, devant un parterre de patrons, Jean-Dominique Senard est alors candidat à la présidence du MEDEF. Il doit renoncer quelques semaines plus tard. La raison, son âge, 65 ans. En privé, l'homme en plaisante aujourd'hui. S'il peut encore servir, alors tant mieux. Réputé plus social que la moyenne, on vante sa patte de velours souvent. Mais l'homme s'est aussi tranché, comme en 2013, où il assume la suppression de plus de 700 postes sur le site Michelin de Jouer-les-Tours.
Je vous le dis, des usines de petite taille ne peuvent plus être compétitives en France. Aujourd'hui, ça n'est pas possible.
Avec lui, chaque suppression de poste doit toutefois être justifiée, lui reconnaît un syndicaliste. À chaque fois qu'il a voulu contester un licenciement, Patrick Beauvolenta, délégué du personnel chez Michelin, a pu s'en expliquer en tête à tête avec un patron dont il vante l'humilité.
Vous le croisez au self, il est comme tout le monde, il porte son plateau pour le tri des déchets, il passe à côté de vous, bonjour monsieur Beauvolenta, on boit un petit café ensemble, et puis voilà, c'est parti, et puis vous vous retrouvez dans son bureau. Ah, c'est vrai que c'est pas du tout la même personne, hein, que Carlos Ghosn, c'est sûr.
Fils de diplomate, Jean-Dominique Senard a sans doute de qui tenir. Sur le papier, pour beaucoup en tout cas, il est le remplaçant parfait, l'Antigone par excellence.
Nouvelle journée de grève et de manifestation dans l'éducation nationale ce jeudi. Plusieurs syndicats enseignants du secondaire ainsi que des organisations de jeunesse appellent à la mobilisation contre de nombreuses réformes. Réforme du lycée, du baccalauréat, contre aussi le manque de reconnaissance des professeurs. Le grand débat national continue sur la plateforme dédiée. 1045 réunions ont été recensées un peu partout en France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reprend la route et son micro. Il sera dans la Drôme, mais il devrait moins parler, écouter davantage. Ce midi, le président de la République va rencontrer Laurent Wauquiez en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis il retrouvera une soixantaine de maires et non 600 comme précédemment. Changement de forme donc pour cette troisième réunion auprès des élus locaux. Le débat s'annonce également plus court, moins médiatisé. Des médias envers lesquels la confiance s'érode, c'est le résultat du baromètre annuel La Croix réalisé par Kantar Sofres. La confiance atteint son plus bas niveau dans cette enquête réalisée entre le 3 et le 7 janvier dernier. Les Gilets jaunes avaient alors pris une grande part de l'actualité et seul un tiers des Français interrogés s'en disent satisfaits. Il est majoritairement reproché aux journalistes d'avoir dramatisé les événements à 67%. Notons que le baromètre ne s'est pas penché sur certains types de médias. Comme la plateforme Brut, qui diffuse des images en direct sans aucun montage. Un manque de transparence sur la fabrication de l'information, selon Guillaume Goubert, directeur de La Croix.
Je pense qu'une des choses qu'on pourrait expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'un média brut, ça n'existe pas. Ce qui est filmé ou enregistré par brut, c'est une partie de la réalité, une petite partie de la réalité. Et il faut qu'elle soit perçue comme telle. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité des événements qui sont en train de se passer. Précisément, nous, journalistes, un de nos savoir-faire, c'est de savoir recueillir des informations de différentes sources dans différents lieux et d'essayer de les pondérer les unes par rapport aux autres. Alors encore une fois, il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on fait ça de manière loyale, aussi transparente que possible. Et effectivement, il faut sans doute qu'on donne accès davantage à nos coulisses, mieux faire comprendre quelles techniques nous utilisons, quelles difficultés nous rencontrons. Nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que de recueillir des témoignages et ensuite de faire un choix entre ces témoignages, pourquoi on en privilégie certains par rapport à d'autres. Les journalistes aiment bien raconter comment ils travaillent. Ce qu'il faut, c'est qu'on en fasse sans doute un usage un peu plus technique que par le passé.
Alors, quelle solution pour une meilleure relation entre le public et les médias? C'est le sujet du hashtag diffusé demain matin sur France Culture. Vous pouvez encore témoigner grâce au mot-clé « Mon journalisme idéal » sur les réseaux sociaux. Le géant américain a été condamné à payer 50 millions d'euros en France, mais Google va faire appel. La Commission nationale de l'informatique et des libertés lui avait reproché de ne pas assez informer ses utilisateurs sur l'exploitation des données personnelles. Il y a ce matin, pourrait-on dire, deux présidents au Venezuela. Juan Guaido, président du Parlement et chef de l'opposition, s'est proclamé hier président par intérim. Il annonce également des élections libres dans le pays. Il a immédiatement été reconnu par les États-Unis et ses alliés dans la région. Mais l'armée vénézuélienne, l'armée a rejeté cette autoproclamation. Des violences ont éclaté à Caracas entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. Le président Nicolas Maduro parle, lui, d'un coup d'État et d'y rompre les relations diplomatique avec Washington. Une tension vénézuélienne qui touche la population jusque dans les pays voisins. Rappelons-le, plus de 2 millions de personnes ont quitté le Venezuela en 3 ans à cause de la crise sociale. Au Panama, donc, ils sont nombreux à soutenir Juan Guaido et certains l'ont montré il y a quelques heures à peine face au pape François. Le souverain pontife est arrivé cette nuit au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse et les migrants venus nombreux dans le pays comptent sur lui, Mathilde Berti.
Saoul ne quitte jamais le drapeau du Nicaragua. Il le serre fort contre lui dans la foule des JMJ. L'événement, l'effet de groupe, le rend soudain plus fort. À 18 ans tout juste, il vit seul au Panama, contraint de fuir son pays suite aux protestations étudiantes.
Je me suis engagé dans les manifestations de ma ville. Ils ont capturé certains compagnons de lutte. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je ne demande rien à personne. J'ai fui pour une question de survie, tout simplement.
Franchir les frontières pour survivre, Maria l'a vécu également. Au Venezuela, son père, chef d'entreprise, est menacé de mort. Elle tente de se construire un avenir au Panama.
Mon père pensait retourner au Venezuela une fois la crise résolue, mais la situation empire. Et moi et mon jeune frère n'avons aucun avenir là-bas. C'est difficile au Panama, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès à cause de ma nationalité. Certains concours scolaires, par exemple. Et ma famille a du mal à s'intégrer par le travail.
Le Panama ne possède pas de chiffre officiel sur les migrants. Il serait 10% de la population. Tous ces jeunes attendent du pape des paroles réconfortantes pour eux et sans concession pour les puissants.
Lui est une personne que l'on écoute. Il est influent. Sa voix porte au moins. La nôtre, personne ne l'écoute.
Dans une toute première déclaration, c'était dans l'avion le menant au Panama. Le pape François a jugé que le projet de mur entre les États-Unis et le Mexique était une folie.
En Tunisie, le président vient de l'annoncer, chaque 23 février sera désormais la fête nationale de l'abolition de l'esclavage. Le pays est l'un des premiers pays à l'avoir aboli en 1846, un 23 janvier justement. Et pourtant, Maureen Mercier, l'esclavage réapparaît en Tunisie.
Sfax, poumon économique du pays, cette femme de Côte d'Ivoire a réussi à fuir ceux qui l'exploitaient.
Il y a des trucs que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Il y a des manières de se comporter avec un être humain que vraiment quand les Tunisiens, c'est pas facile.
En Tunisie, de riches familles emploient des migrantes d'Afrique subsaharienne comme domestiques. Enfermées, privées de leur passeport, elles doivent récurer quasiment sans arrêt durant des mois et sans salaire.
Souvent on te dit, oui, tu es mon esclave, tu es ici, tu travailles pour moi, tu es mon esclave. Tout ce que je t'ai dit de faire, tu dois le faire. Moi je travaille, je commence mon travail à 8 heures. Jusqu'à ce que les enfants dorment. À minuit, je suis avec eux.
Souvent, ces femmes racontent que la seule fois qu'elles ont pu mettre le nez dehors, escortées par la famille tunisienne, c'est pour subir des tests médicaux. Objectif, s'assurer qu'elles n'ont pas le VIH. C'est ce qu'a vécu cette autre jeune femme qui préfère garder aussi l'anonymat. Elle a vite compris pourquoi.
Mon patron voulait sortir avec moi, toujours me proposait. Et quand je refusais, je voyais que le travail, il augmentait les tâches, il augmentait les heures. Quand je me plains, Il me dit d'aller me faire voir.
Les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter de rejoindre l'Europe via la Tunisie. Les femmes sont donc de plus en plus nombreuses à être happées ici par les trafiquants. La Tunisie, à genoux économiquement parlant, n'a pas les moyens de lutter contre ces trafics. Pour les associations et la société civile, l'Europe, qui fait pression pour que la Tunisie gère ces migrants qu'elle ne veut pas voir débarquer sur son sol, l'Europe nourrit ce retour de l'esclavage qu'on espérait banni.
Maureen Mercier depuis Tunis. Le temps de ce jeudi en France s'annonce plus calme dans l'ensemble avec le retour de belles éclaircies. Risque de verglas et de neige sur la Corse ce matin. Comptez moins 4 degrés à Nancy, 0 à Paris, 1 degré à Lyon, 6 à Nice.